Alors, partout au Canada, les compagnies, les grandes sociétés publiques dévoilent leurs résultats ces jours-ci. Aujourd'hui, c'était le tour de Québécois et Pierre-Yves McSween est là pour nous en parler. Salut Pierre-Yves!
Salut! Troisième trimestre, oui,
ouais, publié. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment t'analyses ça?
Bien, première des choses, c'est vrai que les câbles aux distributeurs, ou peu importe le nom qu'on leur donne, qui fournissent des services d'accès Internet, voient des tendances lourdes. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que même si l'action Québécois vivote depuis quelques années, disons-le 3 ans environ, il y a d'abord pas moins qu'il y a des tendances. Par exemple, tu as des revenus qui viennent évidemment des services Internet, des services de téléphonie mobile qui augmentent. Donc, disons que téléphonie mobile augmente de 8% dans le trimestre, Internet 5,6%, qui est cohérent dans le fond aussi avec l'augmentation du marché et le télétravail. Mais il y a une baisse des revenus au niveau de la télédistribution, donc le câble régulier, près de 7%, baisse au niveau de la téléphonie filaire, évidemment, et de la vente d'appareils mobiles. Puis il y a une logique derrière ça, parce que première des choses, on donne les deux vieux services souvent à rabais pour vendre l'Internet et la téléphonie mobile, et on subventionne l'achat d'un appareil pratiquement à quelqu'un pour qu'il adhère au service de service Internet. Et donc, c'est pour ça que les revenus sont vraiment au niveau du cellulaire, du service et de l'Internet. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point Vidéotron, c'est pesant chez Québécois. Dans le public commun, on voit souvent Québécois au Journal de Montréal. On voit Québécois, les magazines, on voit Québécois,
TVA,
mais c'est rien dans les Québécois. T'sais, 92% du bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement est à la télécommunication. Donc, tu génères...
Mais pas au câble, hein? C'est plus la téléphonie que le câble.
Oui, mais ça passe dans le même, ouais. Dans le même fil. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, aïe, OK, les médias, là, imagine-toi, c'est 36 millions de bénéfices ajustés, puis les télécommunications, 477 millions. Puis sport et divertissement, c'est 11 millions. Donc, tu vois que finalement, le contenu, oui, sert à donner du contenu exclusif, puis à aider la machine, puis à faire la publicité de la machine. Mais ce qui est payant, c'est de vendre les services d'accès Internet qui viennent capter la valeur des abonnements d'autrefois au niveau de l'entraînement, c'est rendu en ligne, au niveau des magazines, c'est rendu en ligne, les journaux, c'est rendu en ligne. Donc, tout ça, la musique, les films, Netflix, et donc, c'est l'ensemble des services qui ont des télécommunications qui viennent capter cette valeur-là. Donc, le consommateur aujourd'hui est prêt à payer très cher pour payer pour le canal en se disant « ça va m'apporter le contenu illimité dont j'ai besoin ». Et c'est spectaculaire, puis c'est la même chose partout, mais chez Québécois, autant que chez Cogeco, le défi du câble est pour une certaine clientèle, le fait de dire que le signal dans certaines heures de pointe est segmenté. Tandis que des compagnies autres qui sont sur la fibre optique ont, disons, plus de signal qui est non segmenté. Donc, ça aussi, c'est un défi technologique à avancer. Mais dans tout ça, le cash est là. Hein. Le cash est dans fournée.
Pierre-Yves, ils n'ont pas le choix de se réinventer, les grandes entreprises de télécommunications, parce que, tu sais, pendant des années, le câble a été la vache à lait. Puis là, on le voit, là, les gens, ils vont plus en streaming, comme on dit. Puis je regarde dans différents domaines. Prends le grand secteur du sport professionnel. À l'époque, c'était uniquement des grands réseaux de télévision qui achetaient les droits de télédiffusion des matchs. Mais maintenant, tu as Amazon qui a acheté, par exemple, les droits de télédiffusion de la Ligue française. Tu ne voyais pas ça il y a 5 ans.
Oui, on va diffuser en streaming, en live. Donc, c'est ça qui nous intéresse, peu importe la plateforme. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on se dit, OK, il y a un phase-out en français, c'est en anglais, si tu veux, une diminution vraiment, un amortissement de la clientèle vieillissante. Donc, présentement, qui veut une ligne filaire davantage? Qui veut avoir le câble pour écouter la télévision? Bien, c'est les personnes plus âgées. Les jeunes sont déjà débarqués de la télé conventionnelle. Et donc, tu l'offres en complément pour capter tout le monde. Mais d'ici quelques années, ça va se transférer d'un à l'autre. La télévision conventionnelle va se reformater et le contenu va changer et le financement va changer. Et tout ça a un impact, évidemment, sur les ventes de câbles aux distributions.
Comment elles font, les compagnies de télécommunications, pour, tu sais, t'en parlais en ouverture, pour financer le contrat de téléphonie cellulaire en nous donnant pratiquement les appareils ou en donnant l'apparence de nous donner le téléphone cellulaire, parce qu'on finit par le payer avec notre contrat. Mais quand même, le modèle économique, j'ai toujours eu de la misère à le comprendre.
Ben, en fait, ton téléphone cellulaire, il t'est vendu à crédit, mais pas cher. Vraiment, on a fait le calcul, là. Et même si t'achetais le téléphone par exemple, chez Apple. Tu serais incapable de payer moins cher que le financement qu'on te donne sur 24 mois. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie le contrat. On te fait croire qu'on pondère ton paiement de cellulaire à temps par mois, puis ton paiement de forfait de téléphonie à temps par mois. Mais c'est un peu comme les voitures. Tu sais, les voitures, ceux qui payent comptant, finance ceux qui payent à crédit. Parce que dans le prix d'achat de la voiture, il y a de l'intérêt implicite. Mais dans le contrat de cellulaire, c'est pareil. On te finance ton achat de cellulaire sur 24 mois parce qu'on te donne un prix plus élevé sur le service qu'on t'aurait donné normalement. Et tu l'as dit, ouais, mais je fournis mon cellulaire. C'est pas grave, on te donne pas le rabais équivalent à ce que ça vaut de fournir son téléphone. Et donc, on capte la clientèle en leur faisant croire, entre guillemets, que les téléphones vont moins cher que prévu.
Puis en plus, on te fidélise parce que, ben tu sais, souvent, on t'appelle 6 mois avant en disant, hey, si tu veux changer ton téléphone, là, on a les tout nouveaux modèles qui sont là, mais il faut que tu signes un nouveau contrat de 2 ans, par exemple.
Il y a une nouvelle stratégie qui est encore pire. Je te donne ton téléphone, par exemple, je te vends ton téléphone sur 24 mois. Puis là, tu regardes le paiement par mois, puis tu es content. Puis là, tu as un forfait cellulaire avec ça d'un prix raisonnable. Tu sautes au plafond, tu es content, tu changes le téléphone. Et tu te rends compte que le prix qu'on t'a offert, c'est un prix avec remise. Ça veut dire que tu payes ton téléphone pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, il n'est pas à toi. Tu le remets. Si tu veux l'avoir, il y a un autre 200$ à donner. Et donc, on t'a fait un rabais mensuel. On t'a vendu le téléphone pas cher, mais il y avait un petit astérisque qui était écrit « à tes risques ». Il y avait une remise à la fin, comme une consigne.
Mais ils font quoi avec les vieux téléphones? Parce qu'on le sait, dans ce secteur-là, 2 ans après, là, il y a tellement de nouveautés technologiques que le téléphone qui a 2 ans d'âge, souvent, il est tellement moins performant que le nouveau.
On s'en balance, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est... Ils savent très bien que si tu niaises sur le prix du téléphone puis que t'es cheap sur la négociation du prix du téléphone mensuel, c'est que t'as pas les moyens de sortir 200$ à la fin du contrat. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poursuivre ton contrat jusqu'à temps que t'aies fini de payer le téléphone ou tu vas en prendre un autre avec un autre abonnement. Tu le payes quelque part, il n'y a rien de gratuit. C'est comme les chemises à MC Gilles, là. Tu sais, ça passe de gratuit dans une friperie à pièce de collection.
Tu me cherches?
Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, je peux te confirmer que c'est... Au début, je pensais vraiment qu'il y avait un T-shirt de l'Université McGill, là, mais finalement, c'est McGill. Ça m'a pris 1 heure à m'en apercevoir. T'as couvert 16h, 16h05, j'ai flashé, j'ai dit, non, c'est pas McGill.
C'est un concept, j'ai francisé McGill.
Ben oui, il est allé à l'Université MC Gilles.
Oui, c'est ça. Hey, tu veux aussi nous parler de Bruce Springsteen? Oui. Bruce Springsteen veut faire comme plusieurs autres artistes, c'est-à-dire vendre son catalogue de chansons, de répertoire à Sony Music.
Oui, il est tanné de danser dans le noir, tu comprends? Dancing in the dark. Donc, Bruce se dit, OK, j'atteins un âge vénérable, j'ai la chance d'avoir été là pendant des décennies, mon catalogue vaut quelque chose et les jeunes écoutent Bruce Springsteen, donc ça s'écoute encore. Donc, il y a une valeur...
Ben oui, ça s'écoute encore. Non, mais il y a une valeur... T'as l'air surpris.
Mais non, pas en tout.
Lâche pas, Philippe!
Non, mais Philippe, il y a 2 affaires dans la musique. Hein. La musique, c'est quoi la meilleure façon de relancer un vieil artiste qui pogne encore, mais que les jeunes connaissent moins?
Faire un duo avec Barack Obama pour une série de podcasts.
Oui, ou
c'est
simplement...
C'est ce que Bruce Springsteen a fait.
Ou simplement faire une biographie dans un film.
Ouais.
Johnny Cash a revendu après, là, tu sais. Une fois qu'on a fait le film, ça a relancé sa carrière décédée, là, mais sa carrière quand même. Donc, l'artiste a des revenus sur sa musique actuellement. C'est les rentrées d'argent qui entrent, mais ne connaît pas le futur. Alors là, il se retrouve devant un dilemme. Je vends tout de suite mon catalogue. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu sais, par exemple, il y a des artistes québécois ou québécoises qui ne peuvent pas vendre leur catalogue. Il n'y a pas de preneur. Mais... Lui, il peut vendre ou continuer à laisser à ses descendants ou ses héritiers la valeur du catalogue. Et ce qui est très intéressant, c'est le côté fiscal, Philippe. Si tu vends ton catalogue maintenant, tu vends un droit de propriété et tu le vends à profit, et donc c'est un gain en capital qui est moins imposable fiscalement que des revenus. Et donc, dans une planification fiscale, tu peux dire « je vais vendre mon catalogue 300-400 millions US seulement », puis le gain en valeur là-dessus va être imposable en partiellement, vu que c'est un coût d'argent. Tu sais que David Bowie avait fait ça, avait vendu sa musique, avait titrisé ça, puis il avait eu les obligations David Bowie qui s'était vendu sur le marché avec le rendement sur la musique. Cette année, il y a Paul Simon qui a fait la même chose. Alors, moi, j'adore ces artistes-là. Ils ont vécu pendant des décennies la belle vie des artistes très payants, puis avant de mourir, peuvent encore faire une méga passe, ce qui n'est pas le cas des artistes d'aujourd'hui, autant parce qu'on dure moins longtemps.
Tout à fait. C'est la stratégie fiscale, c'est vraiment intéressant ce que tu racontes ça. Je dois avouer que ce côté-là m'avait jusqu'à maintenant échappé. Hey, Pierre-Yves, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup.
On s'en parle.
Puis va écouter Born in the USA en préparant ton souper.
Dans le prélard.
OK. Dans le prélard, comme dit MC. Salut Pierre-Yves, il est 17h35.